Bonjour à tous. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de Joseph Schumpeter, cet économiste autrichien qui ne jure que par l'innovation. Eh bien, si Schumpeter voue une passion à la figure de l'entrepreneur, c'est celle du chercheur que nous allons mettre en lumière cette semaine, tant la science est l'un des moteurs de la croissance. Demain, nous pénétrerons dans les eaux troubles de la recherche médicale, avant de nous aventurer jeudi dans l'univers impitoyable des publications scientifiques. Mais d'abord, revenons aux origines de l'innovation, dans les laboratoires où se fabrique la connaissance, qui doit financer la recherche fondamentale et pour quels usages. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous entamons notre série sur l'économie de la science en compagnie d'un historien des sciences, Emmanuel Bertrand, maître de conférences à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, en compagnie également de Daphné Raffini, directrice du pôle innovation de l'Institut Langevin. En fin d'émission, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier l'uranium au départ ?
Becquerel.
Un scientifique chevronné.
Becquerel a découvert, par accident, que des sels d'uranium enveloppées dans un tissu noir au fond d'un tiroir avaient impressionné une plaque photographique. Il a pensé que l'uranium interagissait de façon inhabituelle avec quelque chose dans l'atmosphère. Et je dis que c'est l'élément lui-même.
Une théorie très radicale.
Je ne comprends toujours pas. Prenons le raisin, par exemple. Comment le transforme-t-on en vin ?
On le presse et on le laisse fermenter ?
Oui. Imaginons maintenant que le raisin se presse et fermente tout seul. Son essence même se met à changer. À présent, si je vous disais que le raisin, en se transformant en vin, dégage une immense vague d'énergie assez puissante pour rendre toutes sortes de choses possibles. Je suppose que vous seriez captivé.
Oui, très certainement.
Je crois que la science est en train de changer. Et ceux-là même qui la dirigent aujourd'hui sont ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Et je vais prouver qu'ils ont tort, comme Newton l'a fait.
Bonjour Emmanuel Bertrand et Daphné Raffini.
Bonjour.
Bonjour.
C'est avec Marie Curie que nous ouvrons cette émission, extrait de Radioactive, un film réalisé par Marjane Satrapi, sorti en 2019, qui retrace la découverte par la chimiste et physicienne polonaise de deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. Alors ce qu'il faut d'abord expliquer pour commencer cette émission, Emmanuel Bertrand, c'est que la recherche fondamentale se définit par son absence de visée économique, au moins dans un premier temps.
Je crois que c'est l'image d'Épinal qui circule, mais qu'elle n'est pas tout à fait pertinente. Ce que nous montre l'histoire des sciences, c'est qu'en fait, enjeux scientifiques et enjeux économiques ou militaires ont toujours été entremêlés, y compris chez les symboles de ce qu'on appellerait la recherche fondamentale, tels que Galilée, qui par exemple a fait une partie de sa carrière au service de l'arsenal de Padoue, donc pour des visées militaires, et même Newton, autre grand mythe des sciences dites fondamentales, qui a travaillé une grande partie de sa carrière à l'Hôtel des Monnaies. Donc je crois que cette distinction est très difficile à faire et qu'on a toujours, du moins dans l'immense majorité des cas, des idées, des retombées économiques éventuelles quand les scientifiques font leur travail.
Pour vous aussi, Daphné Raffini, cette distinction entre une science pure, dénuée de tout intérêt économique pour l'amour de la connaissance et une science qui, au contraire, une recherche qui serait dédiée à l'économie, c'est une distinction dépassée ?
Tout à fait. Et comme le disait Emmanuel, en réalité, la science a toujours été utile. Et alors, il a cité quelques exemples et moi, j'aborderai des aspects un peu plus institutionnels. Mais par exemple, Louis XIV, au départ, a utilisé la science pour le rayonnement de la France à travers ses grands travaux architecturaux et des innovations adossées, par exemple, comme les grandes eaux musicales ou des machines hydrauliques. Napoléon, ou même ante et post-révolution, on a utilisé la science à des fins militaires. Et comme le disait Emmanuel, actuellement, et pour être nous avons un certain nombre de sujets de recherche très très fondamentaux qui aboutissent à des applications très concrètes. Et à l'Institut Langevin Ondes et Images, je vais illustrer le concept de retournement temporel que Matthias Finck a trouvé, inventé, et avec toutes les équipes, depuis un certain nombre d'années, on a des retombées majeures Notamment, on a créé un certain nombre d'entreprises sur ce concept très fondamental. Et nous avons des applications dans le domaine de la santé, des télécommunications ou encore de la domotique.
Alors, vous nous dites que cette distinction est dépassée. Et pourtant, aujourd'hui, on distingue bien d'un côté la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche de développement que l'on englobe sous le terme générique de recherche et développement depuis les années 60, Emmanuel Bertrand.
Disons que je pense que c'est pas que cette distinction est dépassée, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'elle n'a jamais été pertinente finalement, y compris au XVIe, XVIIe siècle. Et il me semble que peut-être une distinction qui n'est pas non plus parfaite ni exempte de tout reproche serait peut-être la différence entre recherche publique et recherche privée. Disons, peut-être qu'il serait intéressant de distinguer où se fait la recherche, dans des laboratoires publics ou dans les départements de R&D des entreprises. C'est peut-être une distinction, encore que celle-là aussi est facilement brouillée ou brouillable. En tous les cas, elle me semble peut-être plus pertinente que la différence entre fondamentale, appliquée, technologique, développement.
Comment une recherche fondamentale peut-elle déboucher sur une innovation si Youri Gagarine a pu être envoyé dans l'espace le 21 avril 1961, c'est notamment grâce aux mathématiques.
Il y a eu un effet pour réussir cet exploit technique au préalable des recherches qui ont été faites et souvent depuis un grand nombre d'années et sans aucune relation avec ce programme sur des questions de recherche fondamentale de la plus grande importance. Et je voudrais signaler ou souligner à cet égard l'importance de recherches d'ordre mathématique sur la stabilité des systèmes, travaux qui sont d'ordre extrêmement général et qui posent des problèmes mathématiques fort difficiles, et d'autre part l'importance des grands ordinateurs, par exemple de calculer la trajectoire plus vite que celle-ci n'est parcourue par le satellite artificiel et qui par conséquent permettent de donner l'ordre aux fusées qui permettent la rentrée avec une parfaite connaissance de ce qui va se passer ensuite. On pourrait faire la liste de tous les secteurs de la science qui ont fait l'objet de travaux, que ce soit la chimie des combustibles spéciaux, que ce soit la résistance des matériaux, que ce soit les problèmes mathématiques, l'électronique, la mécanique céleste. Vous avez là des domaines immenses qui ont certainement mis en œuvre les forces d'un très grand nombre de savants.
Une archive INA d'avril 1961. Ce que l'on comprend à Daphné Raffini, c'est que certaines découvertes peuvent déboucher sur des applications totalement inattendues.
Tout à fait. On appelle ça, entre autres, le chercheur, il a la sérendipité, il va avoir un espèce de trait de génie, et tout d'un coup, on va... je vous dis n'importe quoi, pardon, je me reconcentre. Il y a effectivement sur des sujets tout à fait fondamentaux, des applications improbables, et je vais donner un exemple. Actuellement, il y a une science qui est encore un peu à l'état de... qui utilise la théorie quantique, c'est le quantum computing, c'est le calcul informatique. Et très clairement, alors l'idée c'est quoi? C'est de produire un calcul de traitement beaucoup plus rapide qu'un ordinateur normal. On prend toujours un exemple entre un ordinateur normal et un ordinateur quantique. L'ordinateur normal a un langage basique, binaire, et un ordinateur quantique, il va faire une superposition parce qu'il utilise les particules. Donc on va utiliser la théorie quantique et ça va permettre, in fine, de calculer des données beaucoup plus rapidement. Donc si vous cherchez dans une bibliothèque, dans une base de données, dans un ordinateur classique, qui contient 100 millions de livres, l'ordinateur classique, il va chercher, il va traiter l'information pendant 50 millions de fois, alors qu'un ordinateur quantique, il va lui suffire 8000 traitements parce qu'il fait de la superposition de calculs. Et donc, très clairement, cette science qui est très fondamentale, actuellement, on pense qu'il y aura des retombées dans la chimie, dans la cybersécurité, dans la finance et dans d'autres domaines qu'on n'a pas encore définis.
On peut également citer le cas des accélérateurs de particules, Emmanuel Bertrand. Ils servent pas seulement à la physique nucléaire, mais aussi à la biologie, à la médecine. Et il y a quantité d'exemples comme celui-là.
Oui, alors on pourrait effectivement les multiplier. Il y a les exemples qu'on sort toujours dans ce cas-là. C'est par exemple le laser, qui au moment où il est inventé, semble être une pure curiosité de physiciens spécialistes de l'électromagnétisme et qui va s'avérer extrêmement utile pour de nombreuses applications, notamment dans le domaine médical. Néanmoins, je voudrais apporter un très gros bémol à cette idée. Cette idée-là dont on parle, c'est en gros ce qu'on appelle parfois le modèle linéaire de l'innovation, qui est en fait que toute innovation est toujours précédée par de la recherche fondamentale. Ce que nous montre l'histoire des sciences, c'est que finalement, c'est pas si souvent que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a très souvent des innovations technologiques, même des mises sur le marché d'objets technologiques qui ne sont absolument pas passées par une recherche fondamentale préalable. Avec un exemple massif, puisque c'est quand même l'exemple qui est à l'origine de la première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur. La machine à vapeur, pendant presque deux siècles, c'est une affaire de bricoleurs, d'ingénieurs, comme les Britanniques Newcomen et Watt. Et en fait, on est déjà capable de faire marcher des machines à vapeur, de faire marcher des bateaux à vapeur, bien avant qu'arrive le sous-domaine scientifique, la discipline scientifique qui va a posteriori rationaliser tout ça et essayer de mettre du formalisme mathématique là-dedans, seulement en 1824 avec Sadi Carnot.
Si l'on suit Emmanuel Bertrand et Daphné Raffini, l'entrepreneur serait celui qui serait à l'origine des innovations et le chercheur à l'origine de la recherche fondamentale, mais les deux mondes seraient moins connectés que l'on le croit.
Bien, en réalité, de nos jours, parce qu'on est passé, la primauté de l'économie de la connaissance, ça veut dire que ce qui prime et ce qui devient le bien, la rareté, c'est la connaissance. On peut dire que, en réalité, il faut être à la pointe de la connaissance pour pouvoir innover. Et donc, les établissements publics de recherche, et ça se passe en France, en Europe et partout d'ailleurs sur la planète, sont devenus un acteur majeur de l'innovation et créent des entreprises.
Cette recherche fondamentale, c'est un espace de liberté, mais est-ce que cet espace ne tend pas justement à se rétrécir au profit de la recherche appliquée, Daphné Raffini ?
Alors, en tout cas, les établissements publics se battent, et nous battons à l'Institut Langevin pour justement conserver cette liberté de la recherche, qui est une des forces de la recherche publique française. Il n'empêche qu'en Europe, je dirais que nos amis d'autres États membres préserve aussi cette liberté de la recherche, mais effectivement, dans un certain nombre d'autres pays de par le monde, il y a certainement des États qui commencent à prendre la main sur les établissements publics pour orienter ces recherches.
Cette préférence pour la recherche appliquée, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision, Emmanuel Bertrand ? Et est-ce que, si oui, elle serait liée à un changement de regard sur la recherche et l'innovation technologique ?
Mais je crois qu'elle est précisément liée à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'il y a dans les dirigeants politiques, dans les décideurs des politiques publiques, cette idée que le but de la recherche, c'est forcément de faire de l'innovation derrière. Et donc, l'idée d'une recherche libre, gratuite, purement spéculative, exploratoire, est de moins en moins en odeur de sainteté. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, on va mettre des investissements sur quelque chose sur lequel on veut quasiment la certitude, avant même de lancer les recherches fondamentales, qu'il y aura des applications derrière.
La recherche fondamentale, c'est 10 à 20%, je crois, de l'ensemble de la recherche et développement dans la plupart des pays développés.
Oui, c'est certainement l'ordre de grandeur, bien qu'encore une fois, il soit très difficile de catégoriser nettement et qu'il y a toute une zone frontière entre les deux qui est peut-être la zone majoritaire. C'est-à-dire que typiquement, il y a à la fois le comportement de certains chercheurs qui cherchent à trouver des applications à leurs idées nouvelles, leurs nouvelles théories, mais il y a aussi énormément de recherches fondamentales qui se nourrit de problèmes pratiques. Et c'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que la thermodynamique s'est développée pour chercher à comprendre comment améliorer le rendement des machines à vapeur. Donc il y a un aller-retour qui fait qu'il y a toute une zone frontière extrêmement importante, presque majoritaire, où il est très difficile de dire si les gens font de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée ou de l'innovation, ils font un peu tout en même temps.
C'est en tout cas l'une des inquiétudes qui a émergé après le vote par les députés français dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 septembre de ce projet de loi sur la recherche française qui fixe la trajectoire budgétaire sur 10 ans. Le gouvernement promet une hausse du budget de la recherche de 30% entre 2021 et 2030, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui redoutent que la recherche appliquée soit à nouveau favorisée au détriment de la recherche fondamentale. C'est votre cas, Daphné Raffini ?
Alors, en ce qui nous concerne, effectivement, au sein du laboratoire, nous avons un certain nombre de chercheurs qui considèrent que la recherche fondamentale est en souffrance et qui aimeraient qu'en France, on puisse trouver des guichets qui financent de la recherche purement fondamentale. Actuellement, vous avez une agence au niveau national qui est l'ANR et qui ne finance pas ce type de recherche purement fondamentale.
L'Agence nationale de la recherche qui a été fondée en 2005, je crois.
2005, tout à fait. Et très clairement, là, je lance un appel, il y a un certain nombre de fondations d'entreprises qui ont envie de donner du sens et de financer des bons projets de recherche. Et ce qui manque dans ce paysage, c'est évidemment une fondation qui pourrait financer avec des montants pas, forcément très conséquent, mais entre 30 et peut-être 50 000 euros. Et ce serait véritablement positif.
Ce qui est reproché à ce projet de loi, Emmanuel Bertrand, et ce qui existe déjà, c'est ce financement, le fait que les financements sont distribués par appel à projet, justement par le biais de l'Agence nationale de la recherche. Et là encore, on favorise des projets de recherche appliqués.
Alors effectivement, ça, ce n'est pas nouveau. La recherche sur projet a toujours existé. Ce que l'on peut reprocher, pas simplement à cette dernière loi, mais à la tendance qui est présente depuis 15 ans en France, c'est d'accroître de plus en plus la proportion des financements de recherche qui viennent de ce type d'appel à projet. Et de moins en moins de ce qu'on appelle de financement récurrent, qui permet justement cette recherche exploratoire sans visée applicative immédiate. Néanmoins, je dirais que c'est pas ça le principal problème de cette loi de programmation pour la recherche. Son véritable problème, c'est que c'est un peu un miroir aux alouettes. Elle promet une augmentation substantielle du financement pour la recherche, mais quand on regarde bien le détail, le financement croît de façon exponentielle, c'est-à-dire pendant les deux années qu'il reste du gouvernement actuel, il y a quasiment rien, une augmentation minime, et puis ça augmente jusqu'à atteindre des taux qui là peuvent commencer à être considérés comme satisfaisants les deux dernières années de cette tranche de 10 ans. Mais je vous rappelle que nous sommes en démocratie et que donc tout gouvernement a le droit de faire ses propres choix budgétaires et n'est absolument pas lié par les choix budgétaires des gouvernements précédents. Donc je trouve qu'il y a une sorte d'imposture dans cette loi de programmation de la recherche.
Une hypocrisie qui serait liée, Daphné Raffini, effectivement au fait que l'effort budgétaire porte surtout sur les quinquennats suivants et qu'il ne peut donc être garanti. Donc il est difficile de se réjouir de cette hausse du budget pour la recherche.
Disons que je serais un peu plus nuancée. Il me semble que certainement le gouvernement a d'autres contraintes, mais peut-être aussi a-t-il oublié que ça fait 20 ans qu'en France, l'investissement en recherche est à hauteur de 2,2% du produit intérieur brut. Or, on sait pertinemment...
Public et privé.
Public et privé, tout à fait. Et on sait pertinemment qu'il faudrait un investissement à hauteur de 3% du PIB pour que la recherche puisse être efficace. Et là encore, le gouvernement commet un travers finalement qui a été déjà répété dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il va faire un investissement massif dans le domaine de l'industrie, sauf qu'il oublie qu'on est passé dans une économie fondée sur la connaissance et que de nos jours, il est peut-être temps d'investir dans la recherche pour justement que la France ne décroche pas.
Alors justement, sur cette question du décrochage, est-ce que il y a un risque réel, selon vous, Emmanuel Bertrand, parce que c'était clairement l'objectif affiché de ce projet de loi, de permettre à la France de rattraper son retard sur les autres pays industrialisés?
Alors si vous me permettez, je voudrais déplacer un peu votre question avant peut-être d'y revenir plus tard, mais pour dire que ce projet de loi pose quand même aussi un autre énorme problème, c'est que la recherche, ça n'est qu'une des deux jambes du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ce sont deux secteurs complètement imbriqués, intriqués l'un dans l'autre, qui vont main dans la main, et que c'est un peu le parent pauvre de ce projet de recherche, au sens où on a un manque cruel d'encadrement des étudiants, surtout à l'université, et que tout ce que promet cette LPR, cette loi de programmation de la recherche, c'est de nouveaux postes qui sont des postes contractuels, des CDD éventuellement renouvelables, mais peut-être pas renouvelés, et alors qu'on a un cruel défaut de postes permanents d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dans le microcosme français de la recherche.
Elle propose aussi des parcours de titularisation à l'américaine, les fameux tenure tracks et les CDI de missions scientifiques qui sont censés remplacer les CDD à répétition. Est-ce que ces nouvelles créations sont susceptibles de renforcer l'attractivité de la France auprès des chercheurs, puisqu'il y a un vrai risque et une vraie crainte de fuite des cerveaux, Daphné Raffini?
Hélas, je ne suis pas sûre, dans la mesure où, très concrètement, en France, les laboratoires reposent sur un collectif d'hommes et de femmes. Et effectivement, nous avons, depuis un certain nombre d'années, mais aussi via les institutions européennes, nous fonctionnons en projet. Et donc, les chercheurs doivent trouver systématiquement des financements pour pouvoir mener leurs recherches. Et j'aurais tendance à vous dire que, en France, alors même que le modèle est absolument à l'opposé de la recherche américaine ou anglo-saxonne, donc ce fonctionnement en mode projet, eh bien ça marche encore parce que peut-être il y a encore ce collectif. Parce qu'au final, les montants que l'on arrive à obtenir Finalement, ça, c'est vraiment sur du court terme. Et quand on veut véritablement pousser des projets, il faut véritablement soumettre, remplir un certain nombre d'appels à projets. Et les chercheurs, très honnêtement, sont épuisés parce que quand vous obtenez des projets, après, il faut les justifier.
Les chercheurs sont épuisés, effectivement, de passer du temps à faire des dossiers pour l'ANR plutôt que de faire des travaux de recherche, Emmanuel Bertrand. Et puis, il faut dire aussi qu'ils sont payés 30% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE.
Oui, exactement. Et c'est ce que j'allais vous répondre, c'est qu'il ne faut pas oublier le nerf de la guerre. C'est qu'on va proposer, en gros, les mauvais côtés du système états-unien, mais sans les bons côtés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va proposer des CDD, donc des tenure track, comme vous disiez, mais en oubliant que les salaires, alors là on n'est pas 30% en dessous, quand on regarde sur l'ensemble de l'OCDE, vous avez entièrement raison, mais quand on regarde par rapport aux États-Unis, il y a parfois un facteur 3 ou 4, et on a une sorte de mercato aux États-Unis avec des transferts de grands chercheurs prestigieux d'université à université sur des postes certes non permanents, mais dont on sait très bien ce sont pas des gens qui auront du mal à retomber sur leurs pattes, mais qui sont payés 3-4 fois plus, donc je ne crois pas que l'attractivité de la recherche en France va être améliorée par ce type de contrats précaires.
Après, les tenure tracks sont des CDD, certes, mais qui sont censés mener à une titularisation, Emmanuel Bertrand.
Ils sont censés pouvoir mener à une titularisation. Mais après, tout dépend des budgets qui sont alloués aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour ouvrir de nouveaux postes permanents.
Et au bout de 6 ans minimum, c'est cela ?
Au bout de 6 ans minimum, et encore une fois, avec la nécessité d'un nouveau support budgétaire pour un poste, ce qui n'est absolument pas un engagement pris aujourd'hui, et qui ne pourrait pas d'ailleurs être pris à ce jour.
Effectivement, le CNRS a perdu 3000 postes en 10 ans, et de son côté, l'exécutif estime que cette loi va permettre à la seule recherche publique d'atteindre 1% du PIB en 2030, et de créer 5000 emplois. Alors, quelle politique, quel décrochage ? Je vous posais la question tout à l'heure, Emmanuel Bertrand, est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'augmenter ce budget de la recherche pour rattraper un retard français ?
Mais encore une fois, je vais continuer avec mon obsession. Je dirais que là où on a vraiment un retard, c'est en termes d'enseignement, en termes de formation. Alors, il y a aussi la spécificité du système français bicéphale, dichotomique, avec d'un côté des étudiants sur lesquels on investit massivement, qui vont faire des classes préparatoires, Sciences Po, l'ENA, où le taux d'encadrement est très bon et où l'État français dépense beaucoup pour ses étudiants, alors qu'on a le parent pauvre qui est l'université, où non seulement on dépense beaucoup moins par étudiant, mais le taux d'encadrement est désespérant, avec des amphis bondés, avec vraiment un manque criant d'encadrement, et ce qui est déplorable pour la formation, sachant que qui fera la recherche plus tard, c'est les gens qui sont aujourd'hui formés, surtout dans les universités.
Sur ce décrochage de la France, Daphné Raffini, je précise qu'entre 2000 et 2018, la France est passée du 5e au 8e rang pour le nombre de publications scientifiques. C'est un retard français qui est réel, qui est déjà effectif.
Alors, on peut encore considérer que la France, elle bénéficie d'une renommée en termes de recherche. Donc, vous avez des chercheurs de très bon niveau, et c'est ce qui permet encore à la France d'être attractive. Il n'empêche que ce que je disais tout à l'heure à propos de la recherche fondamentale, si nous ne sommes pas à la pointe de la recherche fondamentale, la recherche, elle va plus se faire en France et en Europe à terme, parce qu'on n'aura plus de moyens. Elle se fera aux États-Unis, en Chine, et vous le voyez, actuellement, il y a des guerres économiques terribles entre la Chine et les États-Unis. Et si je peux me permettre, aux États-Unis, par exemple, si vous prenez les GAFAM, mais même en Chine, ils investissent de l'argent massivement dans la recherche très fondamentale. Je pense à IBM, Google, Facebook, Apple. Et donc, ce ne seront plus les États, ce seront les entreprises qui vont imposer des modèles de société.
Alors on va revenir sur cette question importante des liens entre chercheurs et entreprises dans un second temps. Mais d'abord, vous avez parlé de l'Europe. C'est intéressant de se poser la question de la politique de la recherche qui existe au niveau européen. Lors du sommet de Lisbonne en 2000, l'Union européenne proposait de construire un véritable espace européen de la recherche.
Dans le domaine de la recherche et innovation, avant Lisbonne, aucune réunion des chefs d'État ne parlait de recherche et d'innovation. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, à chaque sommet européen, on parle de recherche et innovation comme une priorité de l'Europe. La proposition du 7e programme cadre de recherche, qui avait d'ailleurs été préparée précédemment, propose le doublement du projet. La politique de recherche européenne, c'est l'espace européen de la recherche, c'est-à-dire la circulation des chercheurs, des idées, et donc la possibilité, par exemple, de faire un conseil européen de la recherche fondamentale, où les meilleurs chercheurs européens seront mis comme cela en compétition, ce qui donnera une visibilité de l'excellence.
Le socialiste Philippe Busquin, alors député européen, c'était le 19 avril 2005. Que vous inspirent ces propos, Emmanuel Bertrand ?
Alors ça m'inspire d'abord que c'est un extrait très intéressant parce que ça revient sur quelque chose de majeur dans tout le microcosme de la recherche fondamentale française et européenne. C'est ce fameux conseil de Lisbonne de l'an 2000 qui a débouché sur ce qu'on a appelé la stratégie de Lisbonne, qui avait comme objectif affiché, explicite, de faire de l'Union européenne la première société de la connaissance, c'est-à-dire la plus forte, la plus importante, la plus intense des sociétés de la connaissance à la surface de la planète, avec un objectif chiffré, annoncé aussi dès le début, comme la pierre de touche de cette stratégie, qui est d'obtenir que la R&D, les investissements en R&D représentent 3% du PIB dans chacun des pays de l'Union européenne. Et ce qui est très intéressant avec cette stratégie, c'est que donc l'idée était, il faut obtenir ces 3% au bout de 10 ans. Eh bien, 10 ans plus tard, rien n'avait bougé, on était quasiment au deuxième chiffre après la virgule, dans les mêmes scores sur la moyenne des pays de l'Union européenne, et même quasiment dans chaque pays. Peut-être l'Allemagne avait fait un petit effort, mais du coup, cette politique s'est soldée par un échec monumental. Et ce qui est amusant, c'est que constat, 10 ans plus tard, en 2010, ça a échoué. Conséquence, on va refaire la même chose. Et on propose Horizon 2020 qui réaffiche l'objectif des 3%. On y est, on est en 2020 et on est toujours à peu près au même point.
Comment expliquez-vous cet échec, Daphné Raffini, le fait que finalement la stratégie de Lisbonne n'a fait que déboucher sur la création de l'Agence européenne de la recherche fondamentale, mais on est loin, l'Union européenne est loin de consacrer 3% de son PIB à la recherche et développement.
Parce que, premièrement, la recherche est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres. Et donc, les chercheurs, en réalité, ont toujours travaillé ensemble depuis bien avant la construction de l'Union européenne. Mais il est vrai que l'Europe offrait un instrument qui est extrêmement intéressant, qui était le PCRD, le programme cadre, donc qui permet de financer un certain nombre de recherches. Mais manifestement et systématiquement, la recherche passe après un certain nombre d'autres priorités. Et malheureusement,
c'est une question budgétaire principalement pour vous, Daphné Raffini, ou un manque de coordination politique pour créer une Europe de la recherche ?
Tout à fait. Je pense que clairement, pour l'instant, ils n'ont pas les moyens et que de toute façon, les politiques de recherche, elles se créent plutôt au niveau national et pas encore. Mais c'est un petit peu la même chose dans l'industrie, je vous rassure. Donc, dans l'industrie, c'est même pas une compétence partagée, c'est une compétence d'appui. Donc, l'Europe ne peut faire que de la coordination. Donc, il faut effectivement réfléchir à peut-être harmoniser pour avoir une véritable force de frappe.
On est loin d'une Europe de la recherche, Emmanuel Bertrand.
Oui, je crois qu'on en est loin d'un point de vue budgétaire, mais encore une fois, comme le disait Daphné de façon tout à fait juste, du point de vue des échanges intellectuels entre savants, on y est dans l'Europe de la recherche, et j'ai envie de dire, on y est depuis probablement depuis la Renaissance. Enfin, en tous les cas, il y a toujours eu des circulations de savoirs, de livres, d'idées, de théories, d'expériences, de chercheurs, de savants au sein de cet espace européen.
Déclaré cas désespéré de lourdes médecins réputés. Impossible de croire au miracle. Soudain, ils m'ont tout débranché. J'aperçus la lumière divine. 50 ans ont déjà passé dans ma de la science. l'objet de tous les savants fous. Ce futur me redonne ma chance. J'ai peu vécu, mais vous m'aimiez. Aujourd'hui, je suis avec vous.
Génie par The Rodeo sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Emmanuel Bertrand et Daphné Raffini sont toujours avec nous pour parler de la recherche fondamentale pour l'économie. Alors comment pratique-t-on la recherche en France? Et d'abord Emmanuel Bertrand, à quand remonte l'apparition des premières institutions de recherche?
Alors la chronologie est bien entendu différente dans chaque pays. Pour ce qui est de la France, il faudrait regarder institution par institution. Alors, on a d'un côté, bien entendu, les universités, qui, elles, datent du Moyen-Âge, qui ont subi d'immenses transformations, en particulier au XIXe siècle et à nouveau au XXe siècle. Donc, les universités, en fait, c'est un mot qui est unique, mais pour désigner des choses complètement différentes au cours du temps. Pour ce qui est des institutions de recherche, à proprement parler, la principale en France étant le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Il est créé juste avant la Deuxième Guerre mondiale par Jean Perrin en 1939, mais forcément avec l'occupation il est un peu mis en sommeil et c'est surtout en 1945 qu'il prend son essor et qu'il monte en puissance, en particulier sous les gouvernements de Gaulle. De Gaulle finançant et étant le premier, je dirais, dirigeant français à avoir compris l'importance de financer massivement, à la fois en personnel et en matériel, la recherche française.
Avant cela, on peut citer la création à Paris en 1666 de l'Académie des sciences à l'instigation de Colbert. Vous parleriez, Emmanuel Bertrand, d'une tradition colbertiste dans le modèle français de la recherche?
Je ne suis pas certain qu'on puisse parler de tradition colbertiste. Vraiment, les modèles de l'Académie des sciences, c'est vraiment des choses très différentes. C'est des sociabilités savantes où les savants, qui sont quand même en tout petit nombre, hein, il faut voir que on est dans des époques, le 17e, le 18e, où le nombre de personnes qu'on appelle absolument pas physiciens, mais qu'on appellerait aujourd'hui physiciens, sont une quinzaine peut-être sur l'ensemble du territoire français. Donc on n'est pas du tout dans le même genre d'échelle de grandeur, alors que les institutions telles que le CNRS, plus toutes les institutions de recherche qui vont naître après la Deuxième Guerre mondiale, telles que l'INSERM, l'INRA, le CEA, emploient, même dès leur début, un nombre de personnes et de personnel bien supérieur à ces ordres de grandeur, sans parler alors ensuite de la massification et, je vous dis, de la montée en puissance dans les années 1960 de cet effort de recherche français.
Vous l'avez dit, l'événement décisif, c'est la fondation du CNRS en 1939. Je vous propose d'écouter les témoignages de chercheurs qui ont rejoint l'institution en 1965.
Ce qui m'a déterminé à venir dans la recherche, c'est tout d'abord, ma foi, le goût d'en savoir plus, car une licence actuellement de maths ou de physique, ma foi, est un résultat encore assez mince. Et surtout, je crois, le fait de participer en quelque sorte à une compétition internationale, surtout lorsqu'il s'agit de recherche de pointe.
Que peut attendre un jeune chercheur qui entre au CNRS?
Eh bien, il a la possibilité de faire, soit en restant au CNRS, soit après avoir quitté le CNRS, une carrière non pas extrêmement riche, mais honorable. En effet, il y a à l'heure actuelle la possibilité de faire, en restant tout le temps au CNRS et en se consacrant entièrement à la recherche, des carrières à peu près équivalentes à celles de l'enseignement supérieur.
Des témoignages recueillis en l'honneur des 25 ans du CNRS. Qu'est-ce qui fait du CNRS une fierté nationale, Emmanuel Bertrand? Quelle est sa spécificité?
Bien, sa spécificité, c'est d'être, certes, intimement lié aux universités et aux laboratoires qu'on appelle unités mixtes de recherche, qui sont des laboratoires dont les tutelles sont à la fois l'université et le CNRS, donc il est très lié à l'université, mais il a cette particularité d'avoir des personnels qui n'ont pas statutairement à faire d'enseignement et qui donc peuvent consacrer la totalité de leur temps de travail à faire de la recherche, ce qui est une quasi-exclusivité française, dans la mesure où partout ailleurs, la recherche se fait à l'université. Alors elle se fait encore une fois, du point de vue localisation géographique, en France aussi elle se fait à l'université. Mais cette dichotomie française entre deux types de personnel, d'un côté les enseignants-chercheurs qui sont parfois dévorés par les tâches d'enseignement, d'encadrement des formations, tâches administratives, sans parler des appels à projets que nous mentionnions tout à l'heure, alors qu'on a de l'autre côté tout un personnel CNRS qui a beaucoup plus de temps pour justement entreprendre des projets à long terme et des percées décisive dans le monde de la connaissance scientifique.
Daphné Raffini, votre regard sur ces spécificités du modèle français de la recherche, sachant que l'Institut Langevin pour lequel vous travaillez dépend du CNRS.
Tout à fait, on dépend du CNRS, mais aussi de l'école de physique chimie de la ville de Paris. Et cette école, en fait, est une régie autonome de la ville de Paris. Et puis, nous dépendons aussi de trois autres institutions, Sorbonne Université, PSL, Paris Sciences Lettres, qui est un autre pôle universitaire, et une troisième université, qui est l'Université Paris-Centre. Donc, effectivement, tout à l'heure, vous parliez de cet esprit un peu colbertien. C'est un peu vrai que la France a une tendance à mettre en place des administrations, mais il y a d'autres laboratoires qui vont dépendre, par exemple, du CEA, qui, lui, est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Et concrètement, il y a de nos jours des outils, peut-être pour apporter un peu plus de souplesse, et d'ores et déjà, moi, j'interagis beaucoup avec le CNRS et le CNRS est en train un petit peu de changer ses pratiques justement pour être plus réactif. Ensuite, peut-être qu'on peut se projeter et que dans les années futures, on pourra proposer des structures plus souples, plus agiles.
Quand vous dites plus souples, plus agiles, changer ses pratiques, concrètement, ça veut dire que pour vous, il faudrait que les laboratoires se tournent de plus en plus vers le monde de l'entreprise pour créer des partenariats ?
Non, surtout pas. Parce que la spécificité quand même de la recherche française, et là où nous sommes bons, c'est qu'évidemment il n'y a pas de logique d'objectif lucratif. Et il ne faut surtout pas changer cette, on va dire, philosophie. A contrario, il est vrai que la France souffre parfois. Alors le CNRS, c'est un établissement public à caractère scientifique et technologique, assimilé à ce qu'on appelle un établissement public administratif. Et donc il est soumis au droit public et parfois il est difficile pour lui de s'extraire de certaines contraintes juridiques. Et peut-être que, alors il y a des pratiques aussi, ils peuvent modifier ces pratiques, mais peut-être qu'on peut l'aider au niveau du droit à être plus souple. Voilà.
Comment les différents gouvernements justement ont-ils essayé, Emmanuel Bertrand, de favoriser les liens entre laboratoires et entreprises ?
Alors peut-être, je suis désolé, mais je voudrais revenir encore une fois sur votre question précédente, sur laquelle je pense qu'il y avait encore des choses à dire. Qu'est-ce qui fait du CNRS ce fleuron ou cette fierté nationale ? Je crois quand même qu'en termes de productivité scientifique, en termes de nombre de publications, de nombre de chercheurs ayant des récompenses, des prix Nobel, des médailles d'or du CNRS, qui est une médaille qui est attribuée pas uniquement à des personnels du CNRS, mais quoi qu'il en soit, les résultats sont assez impressionnants, à tel point que ce qui n'est pas fait, mais et c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne aussi, le classement de Shanghai. Si le CNRS était inclus dans le classement de Shanghai, et il y a peu à douter qu'il serait certainement dans les toutes premières, voire à la première place.
Car le classement de Shanghai n'inclut que les universités.
Exactement. Je ne sais pas si vous voulez qu'on,
allez-y.
Qu'on parle un petit peu de ce classement de Shanghai, parce que c'est quelque chose aussi de très intéressant, qui en plus permet de comprendre beaucoup des politiques publiques françaises des 15 dernières années. C'est un classement qui est apparu en 2003 à l'Université de Shanghai, mais qui à l'origine est purement un instrument de politique publique interne à la Chine, qui a en gros comme objectif de montrer à l'Université de Shanghai et à ses personnels, regardez comme vous êtes nuls, quand on fait un classement, c'est les États-Unis qui sont devant partout et vous n'êtes même pas dans les 100 premiers. Donc c'est vraiment un instrument de politique publique interne qui a été complètement, qui a fasciné complètement nos dirigeants et tous les dirigeants de la plupart des pays du monde, à tel point que maintenant tout le monde veut absolument être le plus haut possible dans le classement de Shanghai, en oubliant qu'un classement n'est jamais objectif. C'est pas parce qu'on quantifie quelque chose et qu'on met des chiffres dessus, tout est dans le choix des indicateurs et des critères que l'on choisit. Or, il se trouve que, bien que ce soit un classement des universités, paradoxalement, tous les critères ne concernent que la recherche. Il n'y a aucun critère sur la qualité des formations, les débouchés, l'employabilité des étudiants de ces universités. Tout ce qui compte, c'est d'avoir des prix Nobel, des médailles Fields et des articles dans Nature et Science, ce qui est un peu court, à mon sens, pour évaluer la qualité d'une université. Mais à contrario, dans la mesure où c'est plutôt des critères de recherche exclusivement, le CNRS ferait très bonne figure s'il était inclus dans ce classement. Il ne peut pas, puisqu'il n'est pas une université.
Ce qui contribue à l'invisibiliser. Et sur mon autre question, Emmanuel Bertrand, sur peut-être ce qui manque à la recherche en France, ce que disait Daphné Raffini, ces liens qui devraient peut-être être favorisés, facilités entre laboratoires et entreprises. Il y a eu une volonté de la part des gouvernements d'aller dans ce sens au cours des dernières décennies.
Paradoxalement, peut-être par rapport à ce qu'on pourrait penser sans avoir regardé la question de plus près, ce sont essentiellement les gouvernements de gauche dans l'histoire de la Ve République qui ont favorisé ces liens entre l'entreprise et le milieu de la recherche. En particulier sous le premier septennat Mitterrand, sous l'impulsion de Jean-Pierre Chevènement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour essayer de rapprocher le milieu de l'entreprise du milieu de la recherche fondamentale.
Vous parlez de Jean-Pierre Chevènement, justement, je vous propose de l'écouter.
Quels sont les secteurs qui font de la recherche en France? C'est l'aéronautique, c'est l'électronique, l'informatique, l'armement. Et vous avez des secteurs où l'effort de recherche est très insuffisant. Je pense à la mécanique, à la chimie, au textile, à la sidérurgie. Il s'agit de redresser la recherche française et de donner à la France les moyens de son existence indépendante dans le domaine de la science et de la technologie à la fin du siècle.
Voilà Jean-Pierre Chevènement qui était alors ministre de la Recherche et de l'Industrie. C'était le 26 mai 1981. Il y avait alors une volonté forte de ce gouvernement, Daphné Raffini, de passer de la recherche fondamentale à l'innovation.
Exactement. Et je pense qu'il traduit bien une problématique qui existe encore de nos jours et qui, en réalité, est exacerbée avec tous les enjeux actuellement. C'est moins les industries, on voit qu'il y a une transformation des sociétés. Et il faut maîtriser un certain nombre de sujets très fondamentaux. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de l'ordinateur quantique. Mais il y a un certain nombre d'autres sujets. On a la pandémie aussi, qui est un bon exemple. Typiquement, ce qui ressort de cette pandémie, c'est que les chercheurs, même si parfois il y a eu quelques cacophonies, ils ont très vite pu isoler et identifier ce virus. Et ils ont pu le faire parce que concrètement, depuis les 30 dernières années, on a inventé des technologies disruptives qui permettent à nos chercheurs de toujours approfondir les connaissances. Donc il faut favoriser ceci.
À l'inverse, selon le virologue Bruno Canard, pour poursuivre ce que vous dites, Daphné Raffini, le coronavirus a mis en lumière les faiblesses d'un système de recherche fondé sur le court terme, parce qu'il rappelle que depuis 2006, l'intérêt pour le SARS-CoV-2 a disparu et qu'on a perdu beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Bertrand ?
Alors, je ne suis pas spécialiste de ces enjeux de recherche médicale, mais il est certain que ça rejoint la thématique que nous abordions en début d'émission, à savoir l'importance de plus en plus majoritaire, on va dire, des appels à projets. Et c'est-à-dire que quand les laboratoires avaient plus d'argent, de finances récurrentes permettant d'explorer les voies qu'ils avaient envie d'explorer, et par exemple les coronavirus, ils pouvaient continuer pendant 20 ans à travailler sur les coronavirus et à accumuler au fur et à mesure des connaissances. À partir du moment où on leur dit « on vous donnera des financements pour faire de la recherche, si vous me faites un appel à projet disruptif, innovant, qui va bousculer les choses, et de préférence avec un partenaire industriel », forcément c'est plus difficile de faire cette recherche dont on peut penser qu'elle ne sert à rien au moment où on l'a fait, mais dont on est bien contente qu'elle ait été développée pendant des dizaines d'années, au moment où survient une catastrophe ou du moins une pandémie telle que celle que nous connaissons.
On disait que Jean-Pierre Chevènement, dans les années 80, voulait favoriser ce passage de la recherche fondamentale à l'innovation. Et depuis, il y a eu un certain nombre d'initiatives et de lois qui ont été adoptées. Je pense en particulier en 1999 à la loi sur l'innovation et la recherche, qui a fourni un cadre administratif aux chercheurs qui voulaient créer leur entreprise pour exploiter leurs travaux. Le gouvernement Villepin a également lancé les pôles de compétitivité. Pourquoi tout cela n'a pas marché, Daphné Raffini?
Alors, je vais nuancer un petit peu. Ça marche dans la mesure où cette fameuse loi de 1999, elle permet effectivement à des scientifiques, chercheurs, enseignants-chercheurs, de créer des entreprises à partir de leurs travaux et donc d'innovation, de technologies de rupture souvent. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ensuite, il y a effectivement un nombre d'instruments qui ont été mis en place pour rapprocher l'industrie de la recherche. Et il y a eu un certain nombre de loupés parce que le paysage est extrêmement complexe, que les chercheurs ne s'y retrouvent plus et qu'effectivement, il suffisait peut-être de procéder à d'autres innovations pour simplifier ce paysage et faire en sorte que ces acteurs puissent trouver des terrains d'entente, mais de manière un peu plus simplifiée. Mais il y a des instruments qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Les SAT sont critiqués, les instituts Carnot sont plutôt valorisés. Voilà.
Il y a notamment des centres d'innovation et de transfert de technologies qui ont été créés, qui devaient faciliter les relations entre la recherche publique et les PME. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet, Emmanuel Bertrand, sur les réussites et les échecs de ces différentes initiatives ?
Ce que j'aimerais ajouter à ce paysage, c'est qu'il me semble qu'il y a une profonde méconnaissance de la part de nos pouvoirs publics et des dirigeants des processus de recherche et des processus d'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il faut financer la recherche fondamentale de façon orientée, c'est-à-dire en disant voilà, vous avez travaillé sur ça et comme ça vous arriverez à telle innovation. Alors qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'il faut de la recherche, on va dire, libre, exploratoire.
Pluridisciplinaire,
dont on ne sait pas si elle donnera quelque chose. Et une partie de cette recherche ne donnera rien comme application. Mais elle aura quand même l'avantage d'accroître nos connaissances du monde qui nous entoure, des sociétés qui nous entourent. Et une partie donnera quelque chose. Mais on ne peut pas finaliser d'emblée une recherche en décrétant que celle-ci donnera lieu à une innovation technologique. Je pense que c'est ça leur problème. Et de ce point de vue-là, il me semble que, comme je l'ai déjà dit à propos de la machine à vapeur, l'histoire regorge d'exemples où il n'y a pas eu de recherche fondamentale en amont. Le moteur à réaction et l'aviation, c'est du travail d'ingénieur. C'est pas un travail de transfert de transfert de connaissances de la recherche fondamentale dans la recherche appliquée. Donc je pense qu'il faut nourrir ces deux branches, à la fois le développement, l'innovation, et nourrir la recherche fondamentale, sans chercher a priori à calquer un modèle, comme je vous ai dit, un modèle linéaire qui fait que on oriente la recherche fondamentale vers une visée applicative a priori.
Certains regardent avec envie les États-Unis, en estimant que les liens entre laboratoires et entreprises sont plus faciles outre-Atlantique. Qu'est-ce que vous en pensez, Daphné Raffini ?
Alors très clairement, il y a un peu de vérité, à savoir que il est peut-être plus facile de travailler aux États-Unis avec des entreprises qu'un laboratoire français avec des entreprises françaises. Et ça, c'est un peu culturel, j'aurais tendance à dire. Et puis par ailleurs, aux États-Unis, lorsque les chercheurs créent des entreprises, les entreprises vont ensuite financer les universités. Donc très clairement, encore une fois, ils ont une culture de l'entreprise et de l'innovation que nous n'avons pas. C'est pas inné chez les Français, puisque comme vous le disiez très justement, on a plutôt l'habitude, depuis Colbert, à avoir une administration centralisée qui dirige un peu le pays. Il n'empêche qu'il faut saluer le travail des entrepreneurs de nos jours qui ont compris et qui essayent de se rapprocher. Moi, je peux citer un certain nombre de grands groupes industriels, parce qu'on travaille avec des grands groupes, des start-up et des PME. Donc tout type d'acteurs, que ce soit au niveau national, européen, international. Et on voit en France que certains acteurs sont très impliqués et travaillent et ont compris qu'il fallait qu'il y ait un juste retour pour les laboratoires. Et je peux vous citer par exemple l'entreprise L'Oréal, et qui a d'ailleurs mis en place une fondation, la fondation Bettencourt, qui finance un certain nombre de projets dans le médical. Et donc il y a d'autres industriels qui sont en train de connaître des mutations. C'est plutôt des signaux positifs.
Alors, ce qui va dans votre sens, Emmanuel Bertrand, c'est le fait que en 2009, Sanofi, qui ne finançait que la recherche appliquée, a dû fermer son propre laboratoire de recherche, car les chercheurs n'étaient plus assez créatifs. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait trouver un équilibre entre recherche fondamentale et recherche appliquée, Emmanuel Bertrand.
Mais je crois qu'il faudrait surtout se souvenir que la recherche fondamentale n'a de sens que si elle ne sait pas où elle va, entre guillemets. C'est-à-dire que ça doit vraiment être une opération, une acculturation à de nouveaux domaines, de nouvelles idées, sans avoir, encore une fois, a priori l'idée, sans savoir déjà ce qu'on va trouver avant même de le trouver. Et de ce point de vue-là, ce qui est un peu désespérant aujourd'hui, c'est que, encore une fois, l'essentiel des financements publics pour la recherche fondamentale sont conditionnés par des partenariats a priori, alors qu'un partenariat industriel, ça se trouve après. C'est une fois qu'on a eu une innovation de pointe intéressante qu'on peut aller chercher qui peut être intéressé. Mais vouloir d'emblée, avant même de se lancer dans la recherche fondamentale, savoir avec qui on va développer une éventuelle application derrière, me semble une façon de prendre le problème à l'envers.
Daphné Raffini n'est pas d'accord. On vous écoute.
C'est pas tellement que je suis pas d'accord, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'industriels qui sont capables de financer des recherches tout à fait fondamentales. Je pense par exemple à Saint-Gobain. Donc, mais ils vont investir des tout petits montants, mais fort heureusement, ils nous permettent de faire un peu de recherche fondamentale.
Et selon vous, Daphné Raffini, il faut peut-être sortir d'un système de financement qui valorise les recherches à la mode ?
Tout à fait. Alors ça, pour nous, c'est absolument primordial et on le voit à l'Institut Langevin parce que nous avons des chercheurs absolument brillants sur des thématiques qui sont absolument pas connues et malheureusement, eh ben, ils ne trouvent pas de financement. Puis en plus, ils n'ont pas de chance, ces chercheurs, parce qu'ils sont à l'Institut Langevin et qu'effectivement, on est très attractif pour obtenir un certain nombre de financements et eux, ils sont oubliés et souvent on leur dit mais c'est pas très grave parce que ton laboratoire, il a de l'argent. Donc, nous, on est vraiment tout à fait, on aimerait qu'il existe véritablement maintenant des sources de financement qu'on puisse trouver, que ce soit à l'échelle européenne. Alors à l'échelle européenne, vous avez l'ERC, mais il y a quelques problématiques puisqu'on veut couper les budgets du European Research Council. En France, on n'en trouve quasiment pas pour faire de la recherche fondamentale pure. Donc on espère que le CNRS a mis en place une fondation de mécénat, d'autres établissements ont mis en place des fondations de mécénat. On espère qu'ils vont offrir au laboratoire des financements libres pour justement poursuivre ces recherches qui n'intéressent personne, qui ne sont pas à la mode, mais qui peuvent nous permettre de garder une avance technologique.
Et qui sont pourtant fondamentales. Merci beaucoup à tous les deux, Emmanuel Bertrand, Daphné Raffini. Je rappelle Emmanuel Bertrand, historien des sciences au Centre Alexandre Coiré, Daphné Raffini, directrice du pôle innovation de l'Institut Langevin. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
La croisade contre le dogme néolibéral a un nouveau chef de file, le pape François. Dans son encyclique sur la fraternité présentée samedi, le dirigeant catholique s'en prend à la mondialisation et à l'économie financiarisée, une économie chrétienne et révolutionnaire.
Oui, moins dans le projet de fraternité et amitié sociale que dans la cible du pape, l'individualisme radical de nos sociétés malades, dit-il. Ce premier grand texte pontifical sur la mondialisation, comme le souligne Le Monde, est aussi une violente diatribe contre les pratiques et idées néolibérales, spéculation financière, notion magique du prétendu ruissellement, dit encore le texte, et paradigme d'efficacité de la technocratie, rejetés tous dans les tréfonds boueux de l'âme humaine. Dans sa charge, le pape n'hésite pas à bousculer dans leur tombe Mandeville et Adam Smith, affirmant que la simple somme des intérêts individuels n'est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Plus grave, la mondialisation, devenue propriété de l'économie et de la finance, s'est accusé de diviser les nations. Autrement dit, c'est le diable, diabolos, à l'horizon, c'est Satan qui se lève. Réparer le monde, c'est donc réparer l'unité chrétienne et vice-versa.
Le Vatican est donc parti en guerre contre le capitalisme ?
Oh là, la fabrication par l'Église d'une dimension sociale et économique du dogme n'est pas nouvelle. Depuis la doctrine sociale de Léon XIII, aux prêtres ouvriers missionnaires des usines désavouées puis réhabilités, en passant par les prêtres révolutionnaires et leur nouvelle théologie de la libération à destination des paysans dans l'Amérique latine, des années 70, le pape François, lui, accentue ce recentrage. Après l'écologie intégrale post-COP21, il propose désormais une sorte de théologie de la libération antilibérale à destination des salariés de tous les pays. Recentrage antipopériste, mais pas seulement, le Vatican cherche à attirer auprès de lui les décideurs économiques. Des entrepreneurs de 120 pays ont postulé pour participer aux premières rencontres économiques qu'il organisera au mois de novembre.
Et dans ce paysage, Xavier, la France occupe une position de choix dans cette nouvelle économie chrétienne.
Oh oui, et qu'importe le flacon, pourvu qu'on parvienne à l'économie du bien. Les cisterciens du Collège des Bernardins, le prêtre jésuite et ex-économiste en chef à l'AFD Gaël Giraud, le dominicain Éric Salobir, geek du Vatican, dit Le Point, parce qu'il porte la bonne parole jusque chez les entrepreneurs de la Silicon Valley. On le voit, les Français sont à la pointe de l'innovation économico-théologique et l'économie révolutionnaire papale progresse parce qu'elle rejoint une partie des théories de la décroissance, on en avait parlé, mais aussi des réflexions en cours sur l'entreprise libérée post-tayloriste et qu'elle peut aussi s'accorder avec un certain néo-marxisme ou néo-socialisme, plasticité donc légendaire du catholicisme.
Une convergence, mais pas forcément de ralliement au Vatican ?
Alors là, tous ne sont pas révolutionnaires. Éric Salobir, qui prêche au pays des GAFA et du New Age technologique, compare la réintroduction de l'éthique chrétienne dans une entreprise aux deux ou trois degrés degré d'infléchissement qu'il aurait fallu pour éviter au Titanic de couler. Et tous ne sont pas non plus dogmatiques. Certains me disent qu'il faut faire une économie catholique, s'emporte Gaël Giraud. Mais non, moi je veux faire de l'économie en tant que catholique. Comme quoi, en tant que fille aînée de l'Église, la France a aussi forcément tendance à l'hérésie, même en économie chrétienne. Et suivre les pas de Jésus plus que les consignes du pape, c'est le chemin de croix des patrons chrétiens dans la crise.
Des patrons dont le christianisme est mis à l'épreuve par le coronavirus.
Oui, là, d'abord, les patrons chrétiens, qui ont plusieurs syndicats importants, ne sont pas historiquement antilibéraux, même s'ils militent pour un libéralisme moralisé, ce que montre l'ouvrage collectif L'Entreprise et l'Évangile, paru en 2018. Et aujourd'hui encore, le paysage des dirigeants ouvertement chrétiens, il est pléthorique, hein, et majoritairement catholique, et plutôt à droite. Dans La Croix, qui a publié un article très complet cet été, l'évêque de Toulon, pas tendre, les classe en 5 catégories. Il y a les Tartuffes, bien sûr, les chrétiens du dimanche et patrons le lundi, ceux qui s'arrangent avec le succès d'année chrétien des bons sentiments, les convertis nouveaux riches portés sur la philanthropie, et puis pour les plus fervents, la crise est un combat intérieur aussi bien qu'une lutte extérieure. La perspective du licenciement sec de leur personnel a été parfois crucifiante, affirme François Asselin de la CPME, et en général, disent les patrons, le christianisme se paye soit en salaire moindre, soit en perte de crédit auprès de ses homologues. Alors certains veulent espérer dans une Jérusalem céleste économique. Le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens voit même dans le monde d'hier qui convulse, dit-il, l'occasion offerte pour ne plus être tiède, lui qui se disait auparavant inaudible il y a 10 ans. Mais désemparé, un assureur déclare lui avoir renoncé à suivre, je le cite, l'appel à aimer son prochain comme soi-même.
Merci beaucoup Xavier Martinet. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'Écho.
They so fresh, so clean, think they like me, like me. I wear more Supreme than a hype bitch, hype bitch. Only blue, no green, don't excite me. I could make a hole out your wifey. Jeremy's got up on my toes, act like Shaki. Made her get down on the bottom and she tied me. Pull up extra icy, I'm not playing hockey. Niggas think I'm weird and they don't really like me. Cause I can fuck your bitch and fuck your mom and auntie. Your girl's a fight, but your mom is a dime piece. And your auntie, her name is Miss Connie. I got one Glock, his name Clyde, the other one named Bonnie. These bitches, they think they dandy, but they be just lying. That little bitch can't throw it back, I swear that hoe be trying. When I fuck her from the front, it sound like that bitch dying. VVS, I need a vest, anemiac, my diamond. I swear these niggas talk shit, but they really be hiding. Had that boy bitch on my dick, that hoe she was just riding. Diamonds on my neck, so wet, that shit look like Poseidon. I stand on my money, then my height, it turn to 9'10". These niggas be biting. Grata, I'm not really with the fighter. Yeah, me and her was vibing. Yeah, your bitch call me Myron.
On se quitte avec Myron de Lil Uzi Vert. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'Écho. Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Savourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levaché et Anne Depelchin. À la technique, aujourd'hui, Youtou Diego Aclopès.
Made her get down on the bottom and she tied me. Pull up extra icy, I'm not playing hockey. Niggas think I'm weird and they don't really like me. 90,000, that's a life, man.
Demain, nous explorerons les intérêts troubles de l'industrie du médicament. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'Écho.
Oh, you think I give a fuck because I'm rich, baby? Come on, baby, let's have sex and have a rich, baby. She said, I thought you ain't do that, well, you dismissed, baby. Young nigga, no, I ain't chain up, who's from six, baby? I don't think they like me. But when I drop this song, I know they'll get excited. She was homie girl, but now that girl is my bitch. I like them girls that do that scamming and that swiping. I just ran up on my pants. 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 She give me hit that be my grand. 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 Got addicted to the rule.
got addicted to the sex. Got addicted to the foreigns, got addicted to the rest. Man, these boys be doing the moves, and I swear that he's a fast. Man, this girl ain't give me brain, man, we call that be my grain. And we call that be my grain, yeah, we call that be my grain. Yeah, we call that be my grain, yeah, we call that be my grain. Pack on my shit, then I might migrate.